France Musique.
Ne quittez pas, nous allons prendre votre appel.
Vous aimez Mozart ?
C'est lequel ?
Le dernier.
Ça veut dire que j'ai pas de pot avec la musique.
T'en fais aussi ?
Moi, plutôt crevé.
Vous croyez pas que c'est un peu réservé à une certaine élite ?
France Musique.
La 4 saisons n'est pas qu'une pizza.
Saskia Deville.
Sommes-nous suffisamment curieux? C'est une question que l'on peut être amené à se poser lorsque l'on voit la quantité de disques, de livres, de spectacles qui s'offrent à nous au quotidien. Que choisir? Qu'écouter? Vais-je assez loin dans l'exploration? L'avantage d'une culture protéiforme, c'est qu'elle peut faire naître des inspirations variées. Elle peut nous aider aussi à élaborer un langage propre qui se jouerait des modes pour en façonner de nouvelles. Alors lisons, écoutons, regardons encore et encore. Première mesure de Boris Godounov de Modeste Moussorski, joué ici par Claudio Abbado à la direction de l'Orchestre Philharmonique de Vienne pour accueillir notre invité. Curieux, il l'est. Bonjour Arnaud Rebottini. On est ravis de vous recevoir ici sur France Musique. DJ, compositeur de musique électronique, producteur. Je dois vous avouer que j'ai adoré votre programmation musicale.
Ben merci.
Tout à fait originale pour cette émission. Comment est-ce que vous picorez dans ce répertoire de la musique classique? Quelle est votre approche?
Bah, c'est une approche empirique, hein, comme beaucoup de gens qui ont découvert, j'imagine, la musique classique un peu par eux-mêmes. Des clés d'entrée assez simples, le Sacre du Printemps, Debussy. Et puis après, voilà, on explore, on écoute tout ce qu'il y a autour. Et voilà, par curiosité, c'est complètement empirique. Et puis, tout d'un
coup... Vous êtes conseillé? Comment ça marche?
Je sais pas, ça fait tellement d'années. Par exemple, Boris Godounov, ça fait 20 ans ou 25 ans que je dois connaître cette œuvre. Et à chaque fois que j'écoute... je suis fasciné par le génie, enfin, de se dire que l'esprit humain peut concevoir de choses aussi splendides. Enfin, c'est un peu, comme je vous dis, c'est des fois en parlant avec quelqu'un, tiens, tu connais ça aussi, ou des fois tout simplement, en plus maintenant avec Internet. Bah, après,
c'est l'échange.
À l'époque du CD, en fait, c'était bien ce qu'il y avait les livrets.
Et oui.
Je voyageais avec plein de CD et donc j'écoutais dans le train si je voyageais et du coup on lit le livret et là. C'est tout de suite une mine. On parle des références, des influences, que telle œuvre a influencé tel compositeur. Donc on va écouter la suite, on écoute avant et on se fait ses goûts comme ça.
Et puis on écoute l'œuvre dans l'intégralité. On est moins tenté de changer de CD d'une plage à l'autre, comme on peut être plus amené à le faire quand on a une playlist sur un téléphone.
Et après on va le voir à l'opéra.
Vous allez à l'opéra?
Rarement, mais j'y suis allé. Notamment, j'ai vu à Boris Godounov à l'opéra Bastille. Et c'est absolument sublime.
Et au-delà de la musique, c'est quoi? C'est la forme opératique qui vous interpelle aussi, toutes ces disciplines artistiques qui sont réunies sur scène?
Oui et non. Je suis pas un grand amateur de théâtre. Enfin, je peux y aller, j'apprécie, mais c'est pas vraiment ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse dans la musique classique en concert, c'est l'expérience acoustique, en fait. C'est d'entendre l'orchestre et les chanteurs, s'il y a des chanteurs, sans amplification. Mm-hmm. Et ça, c'est absolument magique. C'est une expérience.
Ça vous fait vibrer?
C'est une expérience, tous les gens qui n'ont jamais vécu, même s'ils ne sont pas spécialement amateurs de musique classique, il faut vivre ça une fois dans sa vie, entendre un orchestre.
Dans sa chair.
Dans sa chair et dans son, enfin, oui, physiquement, et la réalité des sons qui est tellement belle.
Mais écoutez les bons conseils d'Arnaud Robotini. Allez au concert, allez écouter un orchestre où il y a un quatuor à cordes aussi.
Oui.
On va écouter un extrait du troisième mouvement du quatuor en sol mineur de Claude Debussy, interprété par le quatuor Ibben. Le quatuor Ibben, ici pour cet extrait du troisième mouvement du quatuor en sol mineur de Claude Debussy, choisi par notre invité aujourd'hui sur France Musique, Arnaud Robotini. Superbe rêverie ici partagée.
Oui, en plus, moi je suis attaché personnellement un peu, comme ma vie, à ce quatuor et particulièrement à ce mouvement. Mais je suis très attaché à Debussy aussi parce que pour moi c'est une sorte de héros, un grand révolutionnaire qui a ouvert la voie à toute la musique contemporaine, à l'esthétique, en cassant les règles. Il disait qu'il n'y avait pas de théorie. Quand on lui reprochait d'avoir un manque de rigueur, il disait il n'y a pas de théorie, il suffit d'entendre, c'est le plaisir et la règle. Et c'est tout à fait ça qu'on entend dans sa musique. Et pour moi, c'est un grand styliste dans le sens où il est extrêmement... En fait, il y a peu de thèmes de Debussy. C'est difficile de chanter, de souvenir d'un thème particulier à Debussy. Par contre, c'est tout le travail sur les timbres. Mm-hmm. Et ça, pour moi, c'est vraiment une identité française en plus. Berlioz qui révolutionne l'orchestre, Debussy, Messiaen aussi qui est très sensible au timbre, et puis avec toute la filiation avec la maison de la radio et le GRM qui là ne travaillera plus que sur les timbres avec Pierre Schaeffer, Pierre Henry et tous les autres compositeurs, François Bayle, Zanesi, tous les gens qui ont fait l'histoire, par Medjani aussi, qui ont fait l'histoire de la musique électronique. Et ça résonne aussi avec la musique électronique plus pop, parce que la spécialité française, finalement, c'était beaucoup le sample, finalement. Donc, il reprenait un peu l'idée du GRM de faire des boucles, et voilà, donc c'est assez drôle.
GRM, groupe de recherche musicale auquel vous êtes associé d'ailleurs.
J'ai travaillé un peu pour eux.
Vous avez travaillé avec eux, effectivement. Centre qui mène des activités de création musicale, de recherche. Mais alors justement, quel est l'impact de ces compositeurs, de cette musique de Claude Debussy, par exemple, sur vos compositions à vous, Arnaud Robotini?
Ça dépend un peu des compositions que je peux faire. Quand je travaille avec Christian Zanesi du GRM, qu'on fait un album en commun, donc je suis plus proche d'une esthétique savante, entre guillemets. Après, je suis plus dans un compositeur de musique pop, même si je n'aime pas ce terme-là. En tous les cas, non savante, C'est plus l'amour des beaux sons. On en parlera avec d'autres compositeurs après que j'ai choisi exprès aussi un peu par rapport à ça. Et des fois des concepts. Quand Stockhausen parle du concept d'objet sonore, moi, c'est quand j'étais en contact avec ces phrases-là, j'ai trouvé ça absolument génial de concevoir la composition comme une association d'objets sonores qu'on va faire vivre ensemble.
Cohabiter. Mélanger aussi.
Voilà,
d'ailleurs, vous avez sorti un titre, hein, en 1998, Karl-Heinz Stockhausen was the funky drummer.
Ouais, voilà, c'est un peu une pirouette.
Inspiration donc. Mais je vous propose une petite balade, moi, dans votre répertoire. Certes, rapide, parce que le format de l'émission l'impose, mais voilà, un premier extrait de cette bande originale que vous avez composée pour le film 120 battements par minute de Robin Campillo. Quelques mesures donc de cette bande originale composée en 2018, qui avait reçu le César de la meilleure musique de film à cette occasion, pour lequel vous êtes entouré de cordes, de flûtes. On retrouve un petit peu ce côté debussiste finalement.
Oui, c'est quelque chose que j'aime bien faire et qui s'adapte bien au BO et qui fait un peu partie de mon identité, justement, avec ces thèmes un peu comme ça, un peu impressionniste entre guillemets. Oui, je m'inspire de cette esthétique-là.
Il y en a eu d'autres, évidemment. On va remonter à votre tout premier album en 2000. Premier album paru sous le nom de Zend Avesta, où on peut entendre aussi, dans ce titre organique, quelques inspirations classiques. Des instruments à moi, un petit peu de musique répétitive aussi.
Oui, fatalement, en plus avec la musique électronique, ça marche tellement
bien. Voilà, exactement, retour aux sources finalement.
Et puis Steve Reich, Terry Riley, c'est comme des grands compositeurs et qui ont vraiment fait le pont justement entre la culture populaire, rock, psyché, jazz et le classique, donc c'est... Pour moi, c'est assez naturel comme influence.
J'ai cru comprendre que vous aviez une collection impressionnante de disques à la maison.
Oui, j'en ai quelques-uns, oui.
C'est combien, plus ou moins?
Je ne sais pas exactement. 5-6 000, peut-être, je ne sais pas.
Ouais, ce qui est pas mal,
ouais,
hein. c'est classé par genre musical, par...
À peu près, oui, c'est ça, oui. C'est vraiment moi qui les retrouve, mais oui, c'est par genre musical, il n'y a pas d'ordre alphabétique. Parfois par label, ça dépend un peu des types de musique. Et
quelle est la marge de musique classique dans ces disques-là?
En vinyle, pas tant que ça, en fait. Hein, parce que j'ai une belle collection en CD de musique classique. Donc en vinyle, pas tant que ça, je dirais peut-être 5%.
Ce qui est déjà pas mal sur 6000 disques, effectivement. Alors il y a la musique, il y a la danse aussi. Hein. Vous avez en 2018 monté ce projet avec Alban Richard, directeur du Centre chorégraphique national de Caen. Une symphonie électro pour 4 danseurs intitulée Fix Me, dont voici un extrait. Vous avez travaillé justement l'aspect chorégraphique d'une composition musicale?
Avec les danseurs et avec le chorégraphe qui était en train de construire un peu sa dramaturgie. Donc on parlait plus de tempo, de couleurs, et je composais au fur et à mesure qui C'est-à-dire que j'ai fait une sorte de, comme on dit au cinéma, d'ours. C'était un premier jet de complet de formel.
Une sorte de squelette, voilà, de squelette, de structure.
Qui représentait la forme de la pièce avec tempo, rythme, type d'harmonie, couleur et tout ça. Et puis après, donc on a fait ce premier jet-là en résidence là. Et puis après, je suis retourné chez moi pour affiner la composition et on s'est revus et on a répété comme ça.
Et c'est à découvrir au 104 si vous ne l'avez pas
voilà,
encore vu à
Paris.
C'est
les toutes dernières parce que là c'est
toute
la fin.
Dernière, exactement, parce que le spectacle a vu le jour en 2018,
oui,
mais il reste quelques dates, les 23 et 24 mars au 104 à Paris pour découvrir donc Fix Me d'Alban Richard et d'Arnaud Robotini.
France Musique. Saskia Deville.
Un extrait de ce cinquième mouvement, Louange à l'éternité de Jésus, extrait du Quatuor pour la fin du temps d'Olivier Messiaen, interprété ici par le trio Vanderer et puis Patrick Messina aussi, qu'on n'entend pas ici à la clarinette, mais sur cet extrait-là, je pense l'une de vos obsessions, Arnaud Robotini.
Oui, parce que c'est une œuvre un peu, ce mouvement-là est un peu particulier dans Messiaen et qui est extrêmement répétitif, qui n'est pas en fait la patte de Messiaen. Que je trouve extrêmement moderne. Et puis après, quand on apprend les conditions de composition et de création de cette œuvre, c'est fascinant.
On va le rappeler à nos auditeurs, ou l'apprendre à ceux qui ne le savent pas. 1941, composé pendant la captivité de Olivier Messiaen,
voilà.
Dans un camp de prisonniers.
Voilà.
Donc composé en situation de crise
voilà,
aussi.
Voilà,
hein.
C'est ça. C'est absolument fascinant. Voilà, pour la fin des temps, l'ode à l'éternité de Jésus. Et l'œuvre est sublimissime. Et avec tout ce travail sur l'espace, les timbres...
C'est ça que j'allais dire, vous évoquiez la beauté des timbres ou la beauté des sonorités.
Ah ben là, on est complètement dedans. C'est une pièce qui finalement n'est pas très complexe d'un point de vue de son écriture. Enfin, en tous les cas, si on compare avec le reste de l'œuvre de Messiaen. Mais qui est vraiment sur l'enjeu, c'est les timbres, l'évolution des timbres, tous ces accords qui se répètent de piano, la façon de les faire les jouer... Les nuances, c'est vraiment une pièce très délicate. Et l'expression est vraiment presque dans les... Enfin, c'est un peu cliché de dire ça, mais dans les silences plus que dans les notes.
Et dans l'étirement aussi, ouais. Du temps en quelque sorte. Alors ça me donne envie d'écouter votre choix musical suivant qui lui multiplie les effets sonores. C'est un petit peu le réalisme qui se moque des considérations esthétiques ou autres. C'est Le rêve de Jacob de Christophe Penderecki.
Bah, pareil, c'est encore une œuvre religieuse. J'aime assez la musique religieuse en manière générale. Et en particulier quand elle est contemporaine, l'œuvre pour orgue de Messiaen est fascinante parce qu'elle, à travers la musique contemporaine, il y a vraiment toute l'expression du mystère de la foi qui est hyper, enfin, que je trouve extrêmement puissant. Et la présence d'un esprit, hein, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, est vraiment renforcée avec cette musique qui quand même souligne tout le mystère de la foi, enfin, voilà, de Dieu finalement.
Un extrait de ce rêve de Jacob de Christophe Penderecki que vous avez choisi pour nous, Arnaud Robotini. Oui, alors, glaçante.
Je sais qu'il est un peu décrié par certains compositeurs, parce que justement, ce que vous disiez beaucoup sur les effets, des choses comme ça.
Moi, c'est... Ah, il y va, hein?
Oui, il y va. Après, moi, je trouve que, voilà, c'est un des derniers inventeurs en termes de musique de film. Si on parle de la musique de film, c'est en fait, quand on prend la musique de film, en gros, il y a Stravinsky, Wagner, et puis, et lui. Enfin, en termes de langage. Et c'est vrai que je suis toujours attaché à ce compositeur, parce que c'est un de mes premiers contacts vraiment avec la musique contemporaine. Je trouve que c'est une porte d'entrée qui permet, puisque ça nous rappelle toutes des choses qu'on a vues, l'exorciste, parce que sa musique est assez importante.
On pourrait même penser à Hitchcock aussi.
Oui, oui, ouais, ouais. Enfin,
et avec ses violons qui, ouais, qui descendent, ouais. Ouais.
Donc oui, c'est beaucoup d'effets, mais voilà, je reste quand même attaché à lui et son collègue Lutov Savsky. Ils sont vraiment sur les mélodies de timbre, comme ça.
Vous allez revenir et nous refaire une playlist, comme ça on aura le plaisir de l'écouter. En tout cas, vous signerez une bande originale à venir, celle de Dark Glasses, prochain film de Dario Argento, puis la bande originale du nouveau film de Robin Campillo aussi, voilà. À votre programme. Donc peut-être qu'on y retrouvera une trace de Penderecki ou d'autres compositeurs également. Je signale aussi la sortie de votre nouvelle EP, New Territory, sortie en décembre dernier, aussi. Merci beaucoup.
Merci.
Arnaud Robotini, c'était un plaisir de vous recevoir. Merci aussi à toute l'équipe, Eric Lancien, Pauline Boisaubert, Pierrick Charles. Et on termine cette émission avec Anton Webern. Allez, un dernier petit mot quand même, Arnaud, sur cette symphonie opus 21.
Alors, ce que j'aime chez Webern, c'est sa modernité aussi. Ça, c'est une pièce de 1928. Alors, la particularité de Webern, c'est d'utiliser énormément les silences et les grands intervalles. Et dans l'idée de s'affranchir complètement de la musique tonale et de toutes les réflexes de cadence qu'il pouvait y avoir encore en 1928. Et je trouve que sa démarche, qui se veut plus radicale que celle de Schoenberg ou de Berg, puisque voilà, c'est un des trois viennois très connus de la musique sérielle, elle est plus radicale et en même temps, elle offre une musique qui est plus gourmande, je dirais, que l'espèce de folie qu'il y a constamment chez Schoenberg. Là, il y a tout cet espace et on est vraiment, et c'était son idée, c'était de faire entendre les timbres. Et c'est vrai que quand on isole de manière, soit avec un silence, soit avec des intervalles importants, on est vraiment sur le son. Et c'était la démarche de Webern qui est donc extrêmement moderne. On parle on dit que c'est une des premières œuvres spatiales, justement. Voilà.
Eh bien, écoutons-en un extrait pour terminer. Merci beaucoup, Arnaud, et à très bientôt.
Merci, à très bientôt.
À réécouter sur francemusique.fr.